Chapitre 30. Frank croyait aux coïncidences, aux étranges événements qui se présentaient sur son chemin pour changer la trajectoire de son destin. La veille, il recevait le fax de la page 146, et en cette fin de matinée, alors qu'il distribuait ses tracts, il se rendit compte qu'il marchait rue de Julienne, parce qu'un employé de la ville était justement en train de changer le panneau portant le nom de la rue. Or, c'était précisément là qu'habitait France Duparc, la deuxième victime dans l'affaire des disparus. Un troublant hasard parce que Frank aurait pu emprunter un autre itinéraire ou ne pas voir le panneau. Ce qui l'incita à se dire que c'était un signe et qu'il fallait qu'il s'attarde un peu ici. De toute façon, qu'est-ce qu'il perdait à aller poser quelques questions aux occupants de l'immeuble? Pas de gardien. L'accès au hall était protégé par un digicode comme chez les autres victimes. Charcot attendit que quelqu'un sorte et l'interpella en brandissant sa carte d'inspecteur. Il voulut questionner l'individu mais s'aperçut rapidement que ce serait inutile. L'homme ne résidait là que depuis 6 mois. À l'intérieur, Frank examina les boîtes aux lettres pour repérer les prénoms qui lui semblaient correspondre à des personnes plutôt âgées. Marceline, Odette, Jean. Inscrivit dans son carnet les numéros associés et alla frapper aux portes. Le quatrième essai se révéla fructueux. Régine Dubreuil, la soixantaine, logeait 2 étages en dessous de France Duparc. Bien sûr qu'elle se rappelait cette sinistre histoire de disparition et de meurtre qui avait choqué tout le quartier. Elle vivait ici depuis plus de 20 ans et d'ailleurs, à l'époque, des policiers l'avaient interrogée.
« 4 ans après, vous continuez à chercher l'assassin ?» s'étonna-t-elle. « Vous ne savez donc toujours pas qui a commis ces horreurs? C'est possible qu'un tel homme soit encore en liberté ?»
Le jeune inspecteur avait tiré le gros lot, mais refusait d'entrer dans les détails. Il resta sur le palier et enchaîna sur la raison de sa venue. « J'aimerais savoir s'il y a déjà eu un incendie dans cette copropriété, antérieure à la mort de France Duparc, aux alentours des années 86-87, voire seulement quelques mois auparavant. » Elle réfléchit un instant, puis secoua la tête.
« Non, pas à ce que je sache.
Pas d'appartement ou de local à poubelle en flammes, ni de problème électrique qui aurait déclenché un départ de feu. Désolé d'insister, mais c'est important.
J'ai plutôt bonne mémoire et ça ne me dit rien. J'étais peut-être absente quand ça s'est produit. Remarquez, je crois que je l'aurais su quand même. Je discute beaucoup avec les gens de l'immeuble. Un bâtiment voisin, allez savoir. »
Elle lui semblait lucide. Frank la remercia d'une poignée de main avant de s'éloigner. Il allait encore toquer à quelques portes au cas où. Soudain, il revint sur ses pas avant que la dame ne referme. «
Excusez-moi d'abuser de votre temps, je vous ai parlé d'incendie, mais ça pourrait être autre chose. Un événement qui aurait nécessité l'intervention des pompiers ou des secours, par exemple. »
Son interlocutrice demeura immobile quelques secondes, puis une étincelle éclaira son regard.
« Ah si, il y a quelque chose qui devrait vous intéresser. Attendez que je me rappelle comment ça s'est passé, et surtout quand. »
Elle mit sa main sur son front et se soumit visiblement à un intense effort de concentration.
Oui, c'est ça. C'était au printemps 1987, lâcha-t-elle enfin. Avril, mai, dans ces eaux-là, parce que j'étais allé acheter des géraniums pour les mettre sur le balcon.
Charcot était tout ouïe. France avait été enlevée fin août 1987. Ça collait.
Quand je suis rentré de mon marché, il y avait des pompiers et des ambulances partout. Ils étaient en train d'évacuer mon immeuble et ceux de cette partie de la rue. Il y avait une fuite de gaz quelque part. On n'a jamais vraiment su où. En tout cas, il n'y a pas eu de casse, rien n'a explosé. Ça a duré une paire d'heures et ensuite on a pu reprendre le cours de nos vies.
La présence des ambulances et des pompiers encore. L'évacuation des riverains. Frank imaginait les secours parcourant les couloirs et exigeant des habitants qu'ils quittent leur logement. L'assassin avait-il alors croisé sa future proie? Avait-il rencontré Isabelle Rondieu, la troisième victime, au moment où un appartement de son étage brûlait? Pouvait-il s'agir du point commun entre les enlèvements qu'il cherchait? Régine Dubreuil était incapable de dire si France faisait partie de ceux qui s'étaient retrouvés dans la rue, ni qui exactement était intervenu, mais peu importait. Charcot avait la soudaine conviction de tenir une piste sérieuse. Il se mit à espérer.
« Je vous demanderai un dernier effort, » fit-il. « Avril ou mai 1987, pensez à vos géraniums, à ces fleurs sur votre balcon. Essayez de vous remémorer les événements de cette journée-là. Des informations, peut-être, à la télé, la radio. »
Elle réfléchit, sembla attraper une idée au vol.
« Dalida. Je ne sais plus quand elle est décédée, mais c'était quelques jours avant. J'en pleurais encore quand j'ai planté mes géraniums. Le temps des fleurs, c'était une de mes chansons préférées. »
Frank la remercia, prit des notes dans son carnet, trouva le métro à la station des Gobelins et descendit 20 minutes plus tard à l'arrêt Boussico, dans le 15e arrondissement, celui de la toute première victime, Corinne Dufauchel, morte le 12 mars 1986. Elle avait résidé rue de Lourmel. Il ne se souvenait plus du numéro, mais il avait vu les photos. Un gigantesque édifice, juste à côté d'un pressing. Il reconnut le bâtiment à 10 étages, un vaisseau de béton beaucoup plus impersonnel que le précédent. Les PV mentionnaient d'ailleurs une bonne centaine de logements, peut-être 150. Ça impliquait au moins le double d'occupants. Il recommença son porte-à-porte, armé cette fois d'une question précise. Des secours étaient-ils intervenus dans l'immeuble ou les environs les semaines ou mois précédant la disparition de Corinne Dufauchel? Malheureusement, ça remontait à plus de 5 ans. C'était trop vieux pour que les gens fassent tous preuve de la même précision que Régine Dubreuil. Il n'était pas rare de croiser le SAMU, une ambulance ou des flics. Des incidents arrivaient régulièrement. Un locataire foudroyé par une crise cardiaque, un chat coincé sur un appui de fenêtre, une femme bloquée dans l'ascenseur. Après ces rapides investigations qui ne débouchèrent sur rien, Franck regagna la rue pour poursuivre sa distribution de tracts. Le ciel était dégagé, la météo clémente, juste une bise discrète qui piquait les joues. Il leva le visage pour profiter des rayons du soleil. Il aimait cette belle lumière d'hiver. La scène scintillait, des gens riaient sous les décorations de Noël et à la sortie des magasins. Dans certaines rues, ça sentait les marrons chauds et le maïs grillé. Malgré la liesse, il ne pouvait s'empêcher de penser à ses découvertes. Et si le tueur de Corinne, France et Isabelle faisait partie de l'un de ses corps de métier en première ligne en cas d'urgence? Ça pourrait expliquer qu'il ait agi dans des arrondissements différents mais proches. Peut-être repérait-il des lieux adéquats, parking, absence de concierge, ainsi qu'une victime potentielle correspondant à ses critères lorsqu'il était en service. Puis il passait à l'action quelques mois plus tard. En rentrant chez lui ce soir-là, les mains vides, il en avait enfin fini avec ses maudits tracts, Franck eut le sentiment d'avoir bien avancé. Le tueur leur avait échappé toutes ces années, sans doute se croyait-il à l'abri. Mais un requin lui collait au train. Un prédateur qui avait flairé l'odeur du sang.